messieurs, bonjour. Mon nom est Sébastien Saint-Pierre et bienvenue à cette quotidienne de la vie agricole. Aujourd'hui, aux alentours de la table, monsieur Christian Ponce, monsieur Michel Saint-Pierre et à l'animation, monsieur Yannick Patelli. Messieurs, bonjour.
Bonjour Sébastien.
Bonjour Sébastien.
Bonjour Michel, bonjour Christian et bonjour à William en Suisse. Alors, on vous habitue dans la quotidienne à vous faire découvrir plusieurs personnalités à travers le monde en dehors du Québec. Depuis quelques années avec Michel, depuis 3 ans, on a rencontré souvent Jean-Marie Cerroni, l'agroéconomiste, Étienne Fourmont, le producteur laitier en Normandie. Récemment, on était avec Anne Prost, la papesse de la gastronomie à Lyon. Et le hasard fait que cette année, il y a eu beaucoup de déplacements de la vie agricole, en fait, à l'extérieur. Alors, un peu avec Michel lorsqu'on a fait la mission en fait en Normandie oui. Mais Christian nous a entraîné en fait dans le Cantal récemment avec les Céréalies du Québec, et lui dans ses voyages un petit peu avant, un petit peu après, il est allé jusqu'en Suisse, et en Suisse il a rencontré William Wismuller. C'est une troisième génération d'agriculteurs en Gruyère. À la base, vous nous direz, je pense, apprenti fromager, mais maintenant maître fromager. Et vous avez même été médaillé d'or pour votre Gruyère AOP au Swiss Cheese Award en 2002. Bonjour William.
Et bonjour tout le monde, bonjour. Et bonjour les amis du Québec. Beaucoup de plaisir d'être là avec vous.
Alors c'est rare qu'on ait des gens de la Suisse. Je pense que de même dans la quotidienne, Michel, si je ne me trompe, je pense que pour ma part, peut-être l'Institut a déjà fait une émission avec la Suisse, mais pour ce qui est,
j'y étais pas.
Mais je pense que l'Institut a fait une émission avec la Suisse.
Première fois.
Mais pour la vie agricole, oui. Pour notre quotidienne de la vie agricole, c'est effectivement une première.
On a eu plusieurs avec des correspondants en France, dont Anne. On en a eu un peu en Angleterre aussi.
Oui, en Angleterre aussi, à Londres avec Madame Condesse. Ouais. Alors William, en fait. Expliquez-nous, parce qu'en fait, d'abord, vous êtes situé tout près de Gruyère, et Christian va pouvoir nous en parler aussi, parce que Christian, il a vu de ses propres yeux, en fait, Château Gruyère. Expliquez-nous comment on vit, en fait, à travers cette troisième génération de fabricants de Gruyère.
Alors, écoutez, donc effectivement, je suis en Gruyère, je dirais, on est à peu près à 25 minutes de la capitale de la Suisse, à Berne, mais on est aussi à 25 minutes de Lausanne, donc on est assez bien centré en Suisse romande. La Gruyère, c'est un pays du fromage, un pays touristique par définition, dans les Préalpes fribourgeoises, dans le canton de Fribourg. Et je suis effectivement d'origine paysanne, donc mon arrière-grand-père était paysan, mon père également. Et puis, assez normalement, finalement, je me suis dirigé dans ce monde plutôt du fromage et de la fabrication.
Mais vous êtes donc agriculteur de famille, mais en fait, vous êtes transformateur aussi, en fait.
Alors aujourd'hui, je ne suis plus. J'ai été pendant jusqu'à l'âge de 40 ans fromager, c'est-à-dire j'ai fait l'apprentissage à 16 ans. J'ai fait l'école de fromagerie à 22 ans. J'ai fait la maîtrise de fromager à 25 ans. Et je suis devenu aussi à 25 ans ce qu'on appelle chez nous acheteur de lait, c'est-à-dire choisi par une coopérative fromagère locale pour transformer le lait de la société de fromagerie de mon village. Et j'ai fait ça jusqu'à l'âge de 40 ans, où là j'étais véritablement le fromager du village qui réceptionnait matin et soir le lait des producteurs de son village, de mon village.
Le lait des producteurs de votre village, est-ce qu'il a une caractéristique qui fait en sorte qu'il est le lait pour faire un gruyère? Est-ce qu'il y a un cahier de charge? Est-ce qu'un des producteurs sont astreints à des règles très précises pour pouvoir faire un gruyère ou un bon gruyère?
Absolument. On fait partie d'une zone AOP, le Gruyère AOP est une zone de production définie, régionalement donc définie au niveau de la Suisse romande, et vous avez raison de le relever, on travaille avec du lait de non-silage, c'est-à-dire qu'on travaille avec du lait, donc je dirais les producteurs de lait nourrissent leur bétail avec du fourrage vert et du fourrage sec, sans alimentation fermentée, qui pourrait créer des problématiques de fermentation sur les fromages. Si c'était par exemple du silo ou de l'ensilage, ça c'est absolument exclu. Donc on a effectivement cette exigence qui demande aux producteurs de lait un peu plus de travail au niveau du fourrage, de travailler le fourrage. mais c'est surtout pour garantir la conservabilité des fromages, et notamment du gruyère AOP, puisqu'on est au cœur de la zone de production fromagère gruyère AOP.
Comment ça se passe avec la relation avec les producteurs, justement, entre les transformateurs et les producteurs, à cause des exigences qui sont demandées aux producteurs? Est-ce qu'ils sont prêts à ça? Est-ce qu'ils sont compensés? Est-ce que c'est des aides de l'État particulières qui viennent en
support? Oui, alors disons, les filières sont devenues autonomes aujourd'hui. Historiquement, il y avait un soutien étatique, comme souvent dans le monde de l'agriculture, mais dans les années 1992, la Confédération suisse a dit aux filières fromagères, maintenant prenez votre destin en main et définissez vos conditions de marché, qui doit être l'offre et la demande. Et c'est sur cette base-là que finalement l'interprofession du gruyère AOP s'est créée. Cette interprofession est composée de producteurs de lait, de fromagers et d'affineurs. C'est une sorte de grande corporation qui défend finalement l'attractivité de cette filière avec une sorte de régulation sur les quantités et qui permet aussi de garantir un certain prix du lait favorable aux producteurs de lait.
Donc c'est ça le point, c'est que le marché permet le prix pour le producteur d'avoir un prix qui répond aux exigences qu'il a. Il y a aussi la question de race. Est-ce qu'il y a une race en particulier là, qui...
Alors, non, pas particulièrement pour le gruyère AOP. Il n'y a pas de race qui sont spécifiquement exigées, mais quand même, on est quand même sur des races laitières. La fribourgeoise, c'est quand même des races laitières qui sont assez de la région.
Oui, donc qui sont habitués de brouter dans les Alpes.
Ils sont, exactement.
Donc, voilà, donc c'est pas la grosse Holstein qu'on connaît ici dans nos étables.
Pour comprendre, quand vous avez dit, William, il y avait un support étatique, puis à un moment donné, l'État a dit, ben, organisez-vous avec le marché, oui. Puis on va trouver une entente dans la filière pour que tout le monde y trouve son compte. Oui. Je ne sais pas si vous connaissez un peu le système du Canada, est-ce qu'on peut considérer que le support étatique, est-ce que c'était le même système qu'ici, avec des quotas, la gestion de l'offre, qui était gérée par un support d'État, en fait? Est-ce que vous aviez un système de quotas comme la France l'avait aussi, ou...
Oui, alors à l'époque, oui, si vous voulez, cette notion de quota, c'est un aspect du fonctionnement et du garantie d'un revenu aux producteurs de lait. Il y a toujours, malgré tout aujourd'hui, un soutien étatique, malgré tout. C'est jamais vraiment 100% autonome. La Confédération, de par sa constitution, qui veut que le peuple suisse soutienne son agriculture, donc il y a une base légale, qui permet à la Confédération d'allouer des subventions, des soutiens, je dirais, à toute cette activité agricole, au-delà même, je dirais, du prix du lait. Donc on contrôle quand même un petit peu l'agriculture par le biais de subventions, en lui imposant à l'occasion des prérogatives pour le bien-être animal. Il y a quand même quelques incitations en termes de durabilité, à l'écologie.
C'est ça, des incitatifs liés à l'environnement. Est-ce qu'il y a aussi des incitatifs liés à la qualité du paysage? On entend souvent dire, je ne sais pas si c'est une rumeur, mais en tout cas, on dit toujours en Suisse, les agriculteurs reçoivent même des subventions pour garder les vaches au champ. Est-ce qu'il y a encore ce côté, on veut un paysage agréable pour les touristes et on paye pour?
Absolument, ça existe toujours, notamment dans les alpages, où finalement, le paysan reçoit par tête de bétail un soutien pour alper son bétail, oui, absolument. C'est une vraie volonté constitutionnelle de voir des vaches dans les montagnes suisses.
Toi, Michel, qui a été sous-ministre longtemps à ministère de l'Agriculture, j'imagine qu'il n'y a personne qui a jamais soumis l'idée qu'on pourrait mettre les vaches au champ et qu'on aiderait les agriculteurs à mettre les vaches au champ?
Non, ça se parle maintenant, de plus en plus. Je pense que c'était une question de bien-être animal qui devient le facteur qui va amener graduellement, à mon avis, un certain nombre de règles où les vaches vont devoir, les producteurs vont avoir l'obligation pour un certain nombre de mois. Ici, évidemment, il faut tenir compte de l'hiver et d'une période pour laquelle il est difficile de le faire, mais ça sera peut-être l'équivalent de 4 mois, une chose qui ne se faisait pas jusqu'à présent. Mais oui, ça se faisait chez quelques producteurs de façon individuelle, mais sur une base, je dirais, plus large, non. On avait surtout des troupeaux qui étaient soit attachés, ce qui est un... Peut-être on était les derniers de cette pratique-là, mais de plus en plus en stabilisation libre, mais pas nécessairement en allant dehors. Alors je pense que ici, alors que chez vous, c'est d'abord c'est tout à fait normal, c'est dans les pratiques, je dirais, ancestrales, littéralement.
Oui, vous avez tout à fait raison. Donc effectivement, on est dans cette orientation de que le bétail fait partie un peu de toute cette activité agricole où l'animal en lui-même doit être considéré, et c'est de plus en plus ce qui se passe aujourd'hui. Les gens sont attentifs aux conditions de production. L'agriculture est quand même un petit peu sous l'œil de la communauté, qui est assez critique à l'occasion. Et c'est vrai que c'est aussi un message que l'agriculture doit donner aussi à ses consommateurs. Nous sommes sensibles, nous voulons produire, faire notre métier, produire du lait dans des conditions respectueuses de notre bétail, et peut-être à l'avenir un peu moins en quantité, mais peut-être toujours plus en qualité.
Alors Christian, toi qui es allé à Gruyère récemment, en fait, bon, tu as vu de tes propres yeux en fait la Suisse et comment se passait en fait l'agriculture en Suisse, mais tu as aussi goûté en fait aux produits. Alors, au-delà du Gruyère, je pense que tu as goûté à la fondue Wismiller, en fait, parce qu'il y a une particularité en fait chez William Wismiller, c'est le fromage à fondue, c'est ça?
Ben, en fait, oui, j'ai eu la chance d'être accueilli par William et Joël, à travers Joël, mais William nous a accueillis bras ouverts dans son pied-à-terre qui l'été nourrit les touristes et les randonneurs, qui a une vue magnifique. On a mis quelques photos, c'est une vue magnifique, c'est un cadre original et on va dire vivant au sein même de la Gruyère. La fondue, que dire, si ce n'est que, bon, elle a quand même été promue produit AOP, et surtout, elle a été fait partie de l'inscription au Goemio, ce qui, je crois, était quand même pas mal le seul, William. J'ai cherché, mais je ne crois pas que j'en ai trouvé d'autres.
Non, alors effectivement, la labellisation, la reconnaissance Goemio en 2016 était le premier produit suisse gourmet labellisé par Goemio, où j'avais été donc à Lyon faire une dégustation à toute l'équipe des dégustateurs de Goemio que j'avais rencontré à l'époque. Mon message était le suivant, c'est que la fondue, c'est de la gastronomie, et la gastronomie, ça peut être aussi un mets élaboré par un chef étoilé ou de grande renommée, mais la gastronomie, c'est aussi un quotidien, c'est aussi un produit du terroir, c'est aussi un produit local, et c'est souvent, et c'est même presque toujours, un moment convivial. Et c'est ce message-là que j'ai voulu cultiver à travers mon métier de fromager et à travers cette fondue qui est tellement typique en Suisse et bien au-delà, évidemment. Et je suis devenu un petit peu un messager d'un chemin de vie qui était le mien, en fait, hein, où j'étais fils de paysan, transformateur de lait, et je suis devenu un gastronome, je l'étais certainement déjà, où j'essaye d'appliquer toute cette philosophie de la gastronomie autour d'un mets aussi simple que la fondue au fromage suisse.
Alors, je confirme que pour y avoir goûté, accompagné d'un somptueux vin blanc, c'est de la gastronomie, c'est même de la haute gastronomie.
Mais d'ailleurs, les chefs disent souvent que la gastronomie, ça part d'un très bon produit. Ça prend un très bon chef, c'est sûr, mais je pense que c'est Pierre Miécaz qui nous disait récemment, quand on l'a vu au Dral de Rungis, mais même récemment dans une émission ici, Pierre Miécaz, qui est un ancien chef aussi, qui disait à la base, si tu n'as pas un très très bon produit, tu n'as pas de très bonne gastronomie.
Tout à fait. On peut avoir un très bon produit et avoir un mauvais résultat si le chef n'est pas bon. Mais on peut avoir un très bon chef et un très mauvais résultat si le produit n'est pas bon. Donc, à la base, c'est la base comme dans tout. Oh ouais. C'est le produit. C'est ce qu'on cultive, la manière dont on le fait, c'est ce qu'on produit, c'est la manière dont on va le respecter, qu'on va le transformer. Et je dirais que l'expérience que j'ai vécue en Gruyère grâce à William est à ce jour incomparée par rapport à beaucoup de choses que j'ai mangées, notamment le côté raffiné, le côté, je dirais à la fois simplicité, parce que c'est ce que tu as réussi à faire. Tu as réussi à promouvoir un produit de très haute qualité en le faisant simplement chez monsieur et madame tout le monde. C'est ça la beauté de la chose.
C'est certainement ce qui est distingue la gastronomie.
J'avais à cœur, à travers mon métier de fromager, donc de maître fromager, de sélectionner, comme on en parlait, les meilleurs fromages. Et il n'y a qu'un expert qui connaît son produit, qui est capable de chercher dans sa sélection un peu ce niveau gastronomique ou d'expérience gustative qu'on aime à la fin partager. Et c'est dans cet esprit-là que j'ai voulu aussi un petit peu donner une sorte de notoriété, de noblesse, si j'ai envie de dire, à la fondue moitié-moitié suisse, donc avec du gruyère AOP et du vacherin fribourgeois AOP, qui sont historiquement vraiment reconnus comme étant des fromages de base pour faire une excellente fondue suisse.
Merci beaucoup. On va à une courte pause, William, et on revient avec Michel et Christian tout de suite.
La Vie agricole, ce n'est plus seulement un journal et ses 100 000 lecteurs. Découvrez aussi nos plateformes web sur www.lvatv.ca et écoutez nos podcasts dans 13 radios FM à travers le Québec et l'Ontario francophone, une portée de plus de 1,5 million d'auditeurs. La Vie agricole, par son émission La quotidienne, se répand partout en région pour parler des vrais enjeux du Québec.
Chez Bellil, on met en valeur les ressources de la ferme pour soigner les animaux d'élevage. On appelle cela l'autonomie alimentaire à la ferme. Nourrir l'autosuffisance. Voilà comment nos conseillers vous aident chaque jour. Bellil Solutions Nutrition. On nourrit ce que vous mangez. L'encanteur René Hood peut vous aider grandement à obtenir le juste prix, que ce soit pour un troupeau de vaches laitières et ou pour la marchandise de ferme à vendre. Le travail d'une vie vaut la peine d'être confié à une équipe de professionnels. L'encanteur René Hood et son équipe de professionnels pour obtenir le bon prix dans un encan. Visitez encanhood.com.
Soyez bien équipés pour mieux travailler avec le M7 de Kubota. La performance, le confort et la polyvalence de ce puissant tracteur se chargent de vos plus grosses tâches cette saison. Présentement, profitez d'options de financement avantageuses sur le M7. Consultez votre concessionnaire Kubota pour plus de détails.
Alors bonjour, bon retour dans la quotidienne. Nous sommes aujourd'hui avec William Wismuller. Nous sommes en Suisse, à quelques kilomètres de Gruyère. Un invité que Christian a rencontré il y a quelques semaines, qui maintenant est dans notre émission et qui fait partie donc des invités internationaux que nous recevons dans la quotidienne maintenant régulièrement. Michel, je pense que je devrais prendre des notes avec quelques questions, je pense, sur les maîtres fromagers.
Une question, je dirais, de parcours. Vous disiez, William, que vous n'étiez plus maître fromager. Vous étiez, comment est-ce que vous vous définissez aujourd'hui? Parce que j'ai toujours l'impression qu'on parle à un maître fromager quand on vous parle.
C'est intéressant. Je pense que j'ai un parcours de vie qui est assez atypique et conduit un peu par l'instinct. Autant j'ai mis de l'énergie et du corps à être un transformateur fromager et d'accueillir tout le lait de mes producteurs de lait jusqu'à l'âge de 40 ans. Autant à un moment donné, je voulais sortir de ma fromagerie et je voulais aussi faire autre chose, créer autre chose. Il y a une sorte de répétition quand même quotidienne, 7 jours sur 7, hein, vous avez du lait qui arrive tous les jours, 7 jours sur 7. ça a un impact aussi sur la vie privée, personnelle, familiale. Et à l'âge de 40 ans, j'avais vraiment envie de faire autre chose. J'avais vraiment fait le tour de ce métier. Mais je voulais vraiment plutôt rencontrer les gens. Je suis devenu un peu détaillant dans un premier temps. Donc avec des crèmeries, je pouvais faire des marchés ou des choses comme ça. Mais par la suite, j'ai fait encore justement cette idée. J'ai eu cette idée de créer encore le dernier projet qui était peut-être le plus correspondant à mon côté un peu artiste. C'était de créer une marque de fondue en Suisse et de devenir quelque part un messager de mes valeurs, de la gastronomie, de la convivialité, du partage du vin et du fromage et du bon pain comme on l'a vécu avec Christian. Et pour moi, c'est des grands moments de la vie et j'ai la chance de pouvoir, grâce au choix que j'ai fait à 40 ans de quitter la production, de rester un acteur et un animateur de la filière fromagère que je connais absolument parfaitement.
Donc votre fondue, c'est celle dont vous nous parliez un peu plus tôt, c'est le bon équilibre entre le gruyère et un autre fromage, quel est-il?
Alors on est dans la zone de production dans le canton de Fribourg, du Vacherin fribourgeois AOP. C'est une pâte mi-dure qui est aussi fabriquée dans les fromageries aux alentours de ma région, mais exclusivement dans notre canton. C'est un fromage AOP. Sa quantité annuelle est de 3000 tonnes par année à peu près qui est produit dans cette zone. Et c'est vraiment un peu le cousin du gruyère AOP. Et c'est comme ça que, historiquement, petit à petit, on a mélangé le gruyère et le vacherin fribourgeois pour en faire cette fameuse fondue moitié-moitié aux saveurs fribourgeoises, mais pas seulement, puisqu'on a du gruyère qui sort un petit peu du canton de Fribourg, donc sa zone de production elle est un peu plus large que le canton de Fribourg. Mais cette notion de fribourgeoise et locale, elle est vraiment bien ancrée au niveau suisse.
Et c'est sur ce fromage, cette fondue-là, que vous avez mis votre nom. Vous êtes maintenant dans le domaine de la commercialisation d'un produit qui est très distinctif. Est-ce qu'on le trouve ici chez nous au Québec?
Alors, écoutez, non, parce que j'ai souvent de la demande, pour être honnête, mais chaque chose en son temps aussi, peut-être. J'ai mis du temps pour essayer de créer autour de moi quelques postes de travail. Hein. C'est pas si simple quand vous êtes seul avec une idée dans la tête. Au milieu des dinosaures industriels de l'agroalimentaire, c'est pas facile de s'extraire. Mais disons que si j'arrivais à rencontrer au Canada un importateur qui croit en nous, en mon message, et qui a la capacité de diffuser notre marque au Québec, au Canada, ce serait un immense plaisir et une grande fierté de pouvoir le faire, peut-être grâce à votre émission.
On peut prendre note de ça.
On peut prendre note. Il y a des salons agroalimentaires. Christian pourra te référer les Ciales de ce monde au Canada, à Toronto et à Montréal, entre autres.
Puis tel que discuté un peu avec ton équipe, on est déjà en train de regarder. Je suis en attente de retour sur certains distributeurs locaux. Mais encore là, je crois que l'importance, quand on distribue un produit de cette qualité-là, il faut avoir le bon distributeur. Et il faut surtout que la personne comprenne ce qu'il fait. On ne peut pas distribuer un produit si on ne devient pas distributeur de fromage si avant on vendait des voitures ou des avions. C'est chacun son métier. Donc là, on est encore dans cette phase-là. Une des premières démarches qu'on a fait, notamment, c'est Pierre qu'on parlait tantôt. On l'a donné à la maison. Je me suis permis de donner tes échantillons de bon cœur à Pierre Miecaz qui nous a accueillis à Rungis et qui travaille aussi pour la maison Lorenz qui distribue ni plus ni moins qu'un peu plus d'une centaine de restaurants dont 54 ou 56 macarons Michelin dans le lot. Donc lui
et l'Élysée.
Et l'Élysée.
Ah oui.
Donc c'est sûr qu'on travaille à ça, l'accueil, la gentillesse avec l'accueil que tu as donné ne pouvait être autre que un minimum te trouver un distributeur local pour pouvoir en manger encore au moins une fois par chez moi.
C'est vrai que quand vous avez un artisan fromager qui vous parle d'une expérience à partager, une expérience gastronomique alors que vous allez manger une fondue, ça va ça va créer des émotions, mais à la fin, c'est encore que de la communication. La réalité, c'est quand vous êtes autour de ce caclon et que vous partagez le moment avec vos amis et puis que vous vous dites « Waouh, c'est bon !» Et là, l'expérience, elle s'amplifie encore plus, et ça, c'est pas du marketing.
Et justement, parce que dans votre personnage, il y a un artiste, il y a un entrepreneur, il y a un fromager aussi à la base, mais il y a tout ça. Et vous parlez de caclon, et peut-être nous raconter, parce que moi, j'ai vu les photos circuler. Il y en a une qu'on a mise en ligne, où on voit jongler avec des caclons. Là. Vous avez tenté, en fait, de lancer vos propres caclons, je pense.
Oh, c'est une petite idée que j'ai derrière la tête, de créer un caclon suisse, vraiment Swiss made. Mais paradoxalement, c'est pas si simple de trouver une manufacture suisse qui est capable de vraiment mouler une casserole qui peut être donc un caclon fondu. C'est pas si simple que ça. Ça c'est énormément délocalisé. C'est fait un peu en Europe, en Asie, beaucoup. Moi, j'en avais marre de manger une fondue suisse dans un caclon chinois, et je voulais amener, je dirais, quelque chose encore un peu plus authentique. Mais c'est pas si simple. Et après, on a aussi cette notion de prix de production qui est toujours assez assez élevé au niveau suisse. Et si c'est pour faire un objet qu'on n'arrive pas à vendre aussi avec une marge qui permet simplement que ça fonctionne, voilà. Mais c'est pas si simple que ça. Mais c'est une bonne idée que j'ai dans la tête, effectivement.
Dans votre esprit, est-ce qu'il y a un matériau particulier dans quel un métal, quelque chose qui pourrait faire, qui serait distinctif, ça ne serait pas un caclon chinois?
Il faut qu'il soit léger. Et à la fin, vous savez, on ne réinvente pas la roue. Moi, je pense qu'on prend un moule en acier avec de l'émail à l'intérieur. L'émail est durable, c'est recyclable, c'est quelque chose qui peut durer toute la vie. Et l'idée, ce serait vraiment de simplement trouver un artisan qui arrive à nous faire un moule en acier, qu'on arrive ensuite à imprégner d'émail avec un manche. Et ça, c'est pas, on est capable de le faire, on ne réinventerait pas la roue. Mais c'est tout plein de processus ou d'interactions entre plusieurs entreprises, parce qu'il n'y en a pas une seule qui fait tout. Et c'est comme ça qu'on renchérit un petit peu l'objet. Mais disons que c'est le caclon à fondu, c'est quand même emblématique de la Suisse aussi, et bien sûr de sa fondue.
Il aurait comme grande qualité d'être Swiss made, celui-là.
Alors voilà, ce serait un peu l'idée. Ça, mais je ne lâche pas comme ça. Quand je ferme un tiroir, momentanément, parce qu'il y a un peu d'obstruction, je ne l'oublie jamais.
Alors, on va continuer de vous suivre, William, assurément, et on se rencontrera peut-être dans le cadre d'une prochaine mission. Sait-on jamais, si l'Institut Jean Garon refait une mission en Europe, peut-être irons-nous jusqu'en Suisse.
On peut penser aussi peut-être en parler à quelques importateurs, parce qu'il faut avoir un permis d'importation, un quota d'importation.
C'est ça.
Pour pouvoir être l'intermédiaire. Donc,
tout à fait.
Et c'est pas tout le monde qui a un quota d'importation.
Non, tout à fait,
là.
Tout à fait.
Par contre, il y a eu un élargissement à ce côté-là. Pas, les producteurs du Québec n'ont pas tout à fait apprécié que dans les accords multilatéraux, on ouvre autant à l'importation de produits européens, mais la chose est faite, et puis donc, vous pouvez certainement avoir des possibilités plus grandes au niveau de certains importateurs.
Alors, certainement.
Alors, William, on va rester en contact dans les prochaines semaines et prochains mois. Merci beaucoup d'avoir participé à cette quotidienne. Merci Michel,
merci pour
Christian.
Ton temps, puis on fait un suivi sans problème.
Merci. C'est un plaisir de vous rencontrer, de partager ce moment avec vous, et puis une bonne salutation à tous les Québécois qui nous écoutent.
Merci.
Et bienvenue en Suisse et en Gruyère.
Bonne chance
à
vos projets.
Au revoir.
Merci beaucoup.